Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Comme je le disais tout à l'heure en préambule, nous revoilà. On vous avait quitté le 19 juillet exactement.
Je m'en rappelle plus.
J'ai mon cahier qui est là, qui nous le rappelle. Oui, on avait fait un petit peu de rabio, parce que l'actualité, c'était nécessaire, quoi, bien sûr, de parler un petit peu à ce micro de Radio Canu, donc sur le 102.2 de Radio Canu. Et on vous rappelle quand même que la librairie La Plume Noire est toujours ouverte les mercredi de 17h à 19h et le samedi de 15h à 19h, si vous voulez passer nous voir, puis aussi acheter quelques bouquins. Voilà. Ça nous aidera bien dans notre gestion de notre lieu anarchiste, donc la Plume Noire, librairie évidemment anarchiste et autogérée par les militants et les militantes de la CGA, donc la coordination des groupes anarchistes.
Donc, au 8 rue Diderot.
8 rue Diderot, ouais, faut rappeler l'adresse quand même, 8 rue Diderot, Paris, à Lyon, dans le premier arrondissement, excusez-moi, j'y étais.
T'es encore en vacances,
si
ouais, c'est ça, ouais. Ouais,
voilà.
T'es encore là-bas.
Voilà.
Donc voilà, puis aussi pour vous rappeler que les cours de langue, voilà, en solidarité avec les migrantes et les migrants, fonctionnent toujours. Les rendez-vous c'est le lundi soir, donc vous pouvez nous envoyer un petit mail, voilà, si vous avez une personne ou plusieurs personnes à envoyer du coup à la Plume Noire le lundi soir, ou si vous voulez aider aussi sur ces cours-là, n'hésitez pas à nous contacter avant de passer, voilà. Donc ça se passera le lundi soir. Si vous voulez contacter, c'est groupe-lyon@c-g-a.org. Donc voilà, puis donc on reprend, voilà, assez tôt, un peu comme tous les ans, début septembre. Puis là, il y avait nécessité du coup de reprendre cette semaine. On s'était pas mal posé la question, mais du coup on s'est bougé parce qu'il y a quand même une grosse mobilisation qui se prépare la semaine prochaine, donc le 12 septembre, contre cette deuxième loi travail, la suite de la première, puis la suite de toutes les autres qu'il y a eu depuis 5 ans et depuis même quelques décennies pour nous casser un petit peu nos acquis sociaux. Alors je vais commencer par un truc assez court, c'est le communiqué du coup de la CGA au niveau fédéral, au niveau national, et ensuite, on entrera un peu plus en détail sur ce que c'est ce loi travail appelé XXL. Donc le communiqué, c'est pour faire plier le gouvernement, réussir le 12 septembre et les jours suivants. Après le simulacre estival de concertation, entre guillemets, les ordonnances sont tombées. Évidemment, pas de surprise, le gouvernement avait promis une modernisation du code du travail, on a effectivement la suite XXL du démantèlement de celui-ci. La baisse de popularité de Macron et sa clique doit urgemment se traduire par une confrontation sur le terrain social. La tâche est ardue car aux trahisons habituelles de certaines bureaucraties syndicales vient s'ajouter celle de FO. Par ailleurs, la France insoumise de Mélenchon, imposant ses propres dates de mobilisation en essayant de prendre le leadership de la contestation sociale, tente de la dévier sur le stérile terrain politicien. La date du 12 septembre est donc capitale et doit être une réussite. Pour pouvoir donner des suites à la mobilisation, mobilisons-nous sur nos lieux de travail et de vie pour être massivement en grève et dans la rue ce jour-là. Mais nous savons aussi que les jours de grève isolés ne suffiront pas pour gagner et qu'il faut préparer une riposte sociale d'ampleur avec des modes d'action, grève sur la durée, blocage de l'économie, qui s'en prennent directement au porte-monnaie des patrons. Pour cela, construisons l'unité à la base des syndicalistes et travailleurs et travailleuses combatives. Faisons le lien entre les différents secteurs de la société laissés sur le bord de la route par l'État, chômeurs, chômeuses, précaires, étudiants, étudiantes, etc. Pour ne pas s'enfoncer un peu plus dans le cauchemar capitaliste fait de régression sociale, de précarité et d'inégalité et d'état d'urgence permanent, la seule issue, c'est l'organisation sur des bases de classe et la lutte sociale. Donc voilà, ça s'est signé de la CGA, du coup, au niveau fédéral, au niveau national. Nous, on aura aussi un communiqué qui reprend celui-ci en le complétant un petit peu, qui sortira dans les jours qui viennent. Et forcément, du coup, on sera présent le 12 septembre dans la rue pour cette première manifestation contre la loi travail XXL, donc qui partira à 11h30 de la manufacture des tabacs. Donc voilà, si vous voulez nous retrouver dans le cortège CGA, il n'y aura pas de souci. Qu'on soit devant, derrière, au milieu, voilà, on vous invite à nous rejoindre dans notre cortège. Et du coup, on va faire un gros petit point quand même sur ce loi travail XXL. On avait commencé quand même à beaucoup en parler avant les vacances, on avait déjà des idées sur ce qui allait se passer, mais il y a des choses qui sont vérifiées, il y a des choses qui sont même ajoutées, et voilà, qui n'étaient pas prévues au départ, enfin en tout cas qui n'avait pas été annoncé. Et donc du coup là, sur cette loi travail XXL, une chose à bien comprendre, c'est que du coup cette nouvelle régression sociale, elle se négocie pas, elle va se combattre tout le mois de septembre, d'octobre et novembre s'il le faut, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors Un petit rappel déjà sur ce que sont les acquis sociaux, parce qu'on parle beaucoup des acquis sociaux, mais c'est vrai que du coup pour les personnes qui sont pas intéressées à ça ou auxquelles on n'a pas appris ça, parce que du coup faut pas trop apprendre ça aux gens non plus, hein, qui peuvent gagner des choses en se battant collectivement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des acquis sociaux, ils sont gagnés dans la rue et par les occupations d'usines, à savoir du coup par le blocage de l'économie. Alors beaucoup nous font croire, un peu comme le Mélenchon, hein, qu'il suffit du coup d'aller voter pour lui, que c'est l'homme providentiel et que tout va changer. On sait que dans plusieurs pays, ça n'a pas été le cas. On peut se souvenir de l'Argentine, où les péronistes, en arrivant au pouvoir, avaient fait énormément de promesses et puis ils sont transformés en petits gérants de l'économie comme les autres. En Grèce aussi, en Espagne, on attend de voir, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Ils ont toujours une dette colossale à payer. Et donc, du coup, nous, on sait que c'est pas par ce terrain politicien électoraliste qu'il faut compter. Il faut surtout s'en écarter. Il faudrait qu'aussi la plupart des syndicats s'en écartent, mais que c'est bien dans la rue que ça se gagne et par les occupations d'usines, parce qu'on sait qu'en bloquant l'économie, ça commence à gratter un petit peu sur la tête des patrons et des gouvernements, et que c'est par ce biais-là qu'on peut y arriver.
Le blocage de l'économie, ça se fait par la grève en général.
Voilà, par la grève et surtout par les occupations. Voilà. Donc le but du jeu là, c'est d'essayer d'espérer que le 12 septembre, qu'il y ait un ou plusieurs secteurs de l'économie qui se mettent en grève, et que surtout que ce soit quelque chose d'assez fort et d'assez puissant pour qu'on puisse, nous après, salariés ou pas salariés, puisse aller aider sur le terrain pour bloquer tout ça. Il faut absolument que ce rapport de force en faveur des salariés se rééquilibre et même penche du côté des salariés, parce qu'il penche énormément du côté du capital, parce qu'à l'époque, ça a permis d'arracher des droits au patronat. Alors on peut penser à 1936. À 1945, à 1968, pour lesquels ces droits sociaux, ces acquis sociaux, il faut aujourd'hui se battre car on nous les enlève un par un, petit à petit, même si cette loi-là, vous allez le voir, elle met quand même une sacrée avancée pour le patronat. Ce fameux patronat, donc, il n'a cessé de vouloir inverser ce rapport de force, et on assiste depuis des années et des années à une destruction progressive de ces acquis sociaux, dont Macron, en est le représentant depuis 5 ans, parce qu'on a beau nous faire croire que Macron, c'était un homme qu'on ne connaissait pas pour l'élection présidentielle et qu'il arrivait juste sur le terrain, mais il est quand même à l'initiative d'énormément de lois, sous la gouvernance Hollande. Faut pas l'oublier que c'est lui qui a l'initiative de tout ça, et que si cette loi, elle continue, si cette loi, elle arrive maintenant, c'est pas anodin non plus, et que ce loi travail, donc XXL, correspond à cette volonté. Mais la transformation voulue par Macron et le patronat n'a jamais été aussi brutale, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent. Ensuite, on voulait faire un deuxième petit point sur la situation actuelle, parce qu'on nous parle de crise et de crise et de crise depuis des années et des années, notamment depuis au moins 5-6 ans, voire un peu plus, tout en sachant que le capitalisme, c'est un cycle de crise multiple et consécutif. Mais là, du coup, un point vraiment sur la situation actuelle en France, et vous verrez que ça va pas si mal, notamment au niveau des sous-sous pour les patrons. Déjà, on va commencer par les accidents de travail. On peut penser, du coup, qu'avec la modernisation du travail, etc., que ces accidents de travail diminue, depuis 2 ans, il réaugmente. On en est à peu près à 600 morts par an et 4500 personnes avec un handicap suite à un accident de travail. Savoir un incident, on en parlera tout à l'heure, notamment sur la disparition voulue par le gouvernement des CHSCT, un comité d'hygiène et de sécurité au travail. Par rapport aux paradis fiscaux, on en parle de moins en moins. Ça avait été un peu le dada du gouvernement. On verra qu'en fait, c'était un peu un leurre aussi. Mais il y a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux et qu'il y a 2 milliardaires français, qui possède plus que 20 millions de Français. Donc si ça, on appelle ça la répartition des richesses. On en est bien loin. Vous rappelez souvent, il y a eu une grosse mobilisation, je mets ça entre guillemets, du gouvernement précédent par rapport aux fraudes fiscales, qui avait découvert qu'il y avait 80 milliards de fraudes fiscales. Il y avait tout un plan qui avait été en marche. On avait dit que c'était la priorité du gouvernement précédent. Et sur ces 80 milliards, il y en a seulement 2 qui ont été rapatriés donc par Cazeneuve à l'époque, était ministre du budget ou de l'économie, je ne sais plus. Et vous imaginez bien ce qu'on pourrait faire avec les 78 autres milliards s'ils étaient rapatriés. On pourrait du coup avoir plus d'infirmiers et d'infirmières dans nos hôpitaux et sauver un petit peu le service public. On pourrait avoir plus de profs, plus de routes, avoir plus de gratuité pour les précaires, notamment dans les transports publics. Mais vous comprenez bien qu'il est beaucoup plus simple de casser le code du travail, car c'est lui qui est responsable du chômage en masse et de tout ça. Autre chose à rappeler aussi par rapport aux impôts sur les sociétés, ils sont si faibles aujourd'hui que les entreprises, elles se gavent de dividendes. Il y a eu un record en France en 2016, un record historique, donc c'est pas un record juste, c'est historique en 2016 en France. Et ces dividendes, pensez bien qu'ils les redistribuent pas à leurs salariés, mais ils les mettent dans les paradis fiscaux. On en parlait tout à l'heure de ces 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. En gros, pour résumer tout ça, il y a une petite formule qui va bien. Pour ceux qui travaillent ou qui essayent de travailler, qui cherchent un travail, travailler, ça sert avant tout à vivre ou à survivre selon les cas, selon le salaire, à avoir un peu de loisirs si jamais on peut se le permettre. Et les patrons, ils ne travaillent pas, ils s'enrichissent. Du coup, ça veut dire qu'ils profitent du travail des autres pour mettre des sous de côté et se les garder. Ensuite, on voulait faire un petit retour sur comment cette loi travail s'était fabriquée, entre guillemets. Donc, vous êtes tous au courant. Voilà, il y a ce passage par les ordonnances. Voilà, donc ça a été fait au mois de juillet, pendant les vacances, pour éviter un petit peu la contestation sociale aussi. C'est assez aisé, c'est facile. Voilà, les gens prennent des vacances, ils en ont un peu besoin durant l'année, et généralement, c'est plutôt pendant l'été. Et donc, ce passage par les ordonnances, donc c'est un délit de démocratie, puisque du coup, il n'y aura pas de débat. Alors, c'est pas qu'on défend l'Assemblée nationale, mais c'est que du coup, normalement, au départ, une loi, c'est fait pour être discuté. Il y a normalement une opposition, voilà, qui met pas mal d'amendements. Il y a une discussion qui se fait. Généralement, le texte, il peut être un peu amendé, etc., etc. Là, il n'y a rien eu de tout ça. Il y a eu des amendements qui ont été proposés, mais voilà, ça a été passé à la trappe. Et le passage par les ordonnances, ça permet aussi d'éviter une contestation, d'aller très, très, très vite. Donc là, les 5 projets d'ordonnance ont été présentés le 31 août. Et du coup, il va aller très, très vite parce qu'en 3 ou 4 mois, ça peut être fini. Donc voilà, il y a une pseudo-consultation des organisations syndicales, donc ils s'en vantent en disant il y a eu plus de 100 réunions, je ne sais quoi, voilà, avec les syndicats. En fait, les syndicats avaient rien comme document. Donc voilà, on en parle bien d'organisations syndicales et non de partenaires sociaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les documents définitifs, alors ils n'auraient pas été remis pendant ces discussions-là, ils ont été remis aux syndicats 2 heures avant l'annonce publique de ces fameuses ordonnances. Donc c'est vraiment du foutage de gueule. Il n'y a eu aucune modération dans cette loi malgré les propositions syndicales, et notamment par la CGT qui a proposé du coup un code du travail allégé au service des salariés. Ça pense, c'est bien que le patronat et le gouvernement n'en a rien à foutre. Et ce qu'on peut regretter, du coup, pour ce coup-ci, même s'il n'y avait pas d'unité syndicale contre la loi travail, il y a quand même un peu plus de syndicats qui s'étaient bougés. C'est-à-dire que les syndicats d'accompagnement, eux, ils n'appellent pas à la mobilisation du 12 septembre, parce qu'ils pensent juste avoir évité le pire. Donc ça, voilà, c'est les paroles de la CFTC, notamment, et de la CFDT, en disant, nous, voilà, enfin, on va pas non plus contester, on a déjà évité quelques trucs qu'on voulait pas, donc là, on va laisser filer.
De même
grosso
que
modo.
Et Mailly aussi qui s'est
exprimé. Et voilà, non, mais j'en venais, voilà. J'en venais aussi, ouais. Pour Effaux, du coup, qui avait été quand même signataire de toutes les mobilisations en 2016 contre la loi travail et qui laisse tomber assez lâchement ses salariés, ses adhérents, ses syndiqués, tout le monde du travail. Après, voilà, c'est pas non plus étonnant. Effaux, voilà, joue souvent le jeu un petit peu de rapprochement avec le gouvernement. Notamment un secrétaire national responsable de la formation qui est maintenant directeur de cabinet du ministère du Travail. Donc c'est pas rien, voilà, enfin des petites passerelles qui se font comme ça. Il ne reste que les syndicats de lutte de classe, du coup, qui appellent à la mobilisation du 12 septembre. Et après, donc il y a la CGT, il y a Solidaires, j'ai vu qu'il y avait la CNT aussi qui avait rejoint notamment sur Lyon l'intersyndicale, la FSU il me semble aussi, même le syndicat de cadre, la CGC qui continue comme il l'avait fait l'année dernière, à appeler à la mobilisation. Ce qu'il faut savoir quand même que voilà, Effaux n'appelle pas à la grève, mais il faut savoir que sa base est pas très contente. On pense notamment à Effaux Transport qui a signé du coup avec la CGT un appel à manifester, et dans plusieurs départements et régions il y a les unions départementales pour Effaux qui appellent à se mobiliser. Donc ça risque d'en faire un peu de grabuge, tant mieux à la rigueur que ces syndicats un petit peu disparaissent et perdent des adhérents et adhérentes, et que les gens rejoignent plutôt des syndicats de lutte de classe. Et pendant ce temps-là, pendant cette désunion un petit peu syndicale, on sait que voilà, pour gagner, à un moment donné, il va falloir que les syndicats non plus, soit disparaissent ceux qui ne combattent pas, soit que tout le monde se mette un petit peu au travail là-dessus. Pendant ce temps-là, le patronat, lui, il applaudit des deux mains. On a vu un petit peu l'intervention de ce fameux Gattaz, qui fait semblant de se plaindre un petit peu en disant qu'il y a que certaines mesures qui auraient pu être encore plus dures. Mais globalement, si vous cherchez un petit peu sur le net la feuille de route de 2012 du MEDEF, tous les ans, en fait, ils font une lettre en demandant ce qu'ils aimeraient bien pour l'économie, etc., etc. Et grosso modo, cette feuille de route de 2012, elle est reprise pratiquement, pas mot pour mot, mais en tout cas sur les mesures souhaitées par le MEDEF aujourd'hui, en 2017, par le gouvernement Macron. Donc voilà. Et puis maintenant, du coup, on va passer un petit peu au contenu de la loi. On va rentrer un peu dans le détail. Donc, pas tout faire parce qu'il y avait 300 pages, je crois, à peu près. Puis c'est compliqué à lire les ordonnances parce que du coup, ça fait renvoi toujours à des lois précédentes. Donc, pour se taper tout ça, il faut déjà soit avoir une connaissance assez ardue du code du travail, soit faut aller fouiller dans les autres articles pour savoir ce qui a été rajouté, enlevé, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais sur les mesures phares, donc, on va parler en premier lieu des indemnités de licenciement. Ah, vous savez, voilà, si votre patron vous licencie et qu'il n'a pas le droit, en tout cas s'il le fait pour une raison qui n'est pas valable, si vous n'avez pas fait de faute grave, vous, eh ben vous pouvez emmener votre patron au prud'homme. Alors avant, au prud'homme, ça se passe de la manière suivante. Ben, vous, du coup, vous alliez au prud'homme, voilà, c'était jugé, et donc vous aviez une somme qui correspondait du coup certainement à votre ancienneté. Après, ça dépendait aussi un petit peu de votre travail, etc., et de votre salaire. Et ensuite, vous pouvez toucher aussi les dommages et intérêts selon pourquoi votre patron vous aviez viré, voilà, selon les causes, en fait, si votre patron avait fait une erreur, surtout, enfin, si c'était jugé comme une erreur par les prud'hommes. Ben maintenant, du coup, il y a un barème d'indemnité qui est mis en place, donc au prud'homme pour les licenciements, donc sans motif valable, sans justification. Et ben tout ça, ben, vous pensez bien que c'est pas pour le salarié que ça a été fait, c'est pour permettre au patron de licencier sans motif et sans risque. En gros, il va y avoir une réduction de moitié du minimum de l'indemnisation. Avant, c'était 3 mois de salaire. Ça va être 3 mois de salaire. Avant, c'était 6 mois de salaire pour 2 ans d'ancienneté. Et plus vous aviez des années d'ancienneté, plus ça montait. Donc là, on divise par 2 déjà si vous avez que 2 ans d'ancienneté. Ensuite, il y a des plafonds qui ont été mis en place. Avant, il n'y avait pas de plafond. C'est-à-dire que vous pouvez toucher le jackpot, effectivement, si votre patron vous licenciait sans raison.
Abusivement,
bah du coup, vous avez droit. Bah, c'était logique, hein, c'est un droit du salarié. N'empêche, vous allez après sans travail, c'est pas évident d'en retrouver. Et donc maintenant, ils ont mis un plafond d'indemnisation, et du coup, qui est assez bas. Alors là, il y a 2 exemples que je vous mets. Hein, voilà, il y a 10 mois de salaire pour 10 ans d'ancienneté. Alors, en fait, le calcul, hein, pour 10 ans de boulot dans la boîte, 10 mois de salaire, c'est vraiment pas grand-chose. Et ça va monter entre guillemets, hein, à 20 mois pour 29 ans d'ancienneté. Alors, avant, c'était plus de 20 mois pour entre 15 et 20 ans d'ancienneté. Donc voilà un petit peu la différence. Pour les TPE, donc les toutes petites entreprises, c'est un demi-mois de salaire pour 2 ans d'ancienneté. Donc vous allez voir que là aussi, on pourra se gaver avec vous. Si jamais il y a erreur de l'employeur, donc là, c'est là qu'il peut y avoir des dommages et intérêts notamment, et ben là, ce ne sera plus sanctionné. Voilà, donc ça va se référer à la bonne foi de l'employeur, donc a commis une erreur qui n'a pas fait exprès de commettre cette erreur là et donc du coup voilà, on va plus la sanctionner. Vous aviez 2 ans pour saisir les prud'hommes. Donc vous savez que c'est pas évident de se remettre d'un licenciement, des fois bah faut le temps de cogiter, faut le temps de se remettre. Après faut le temps de se remettre au combat et donc d'aller saisir les prud'hommes pour essayer justement d'aller gratter les thunes à votre patron et qu'il soit condamné, parce que c'est important que la personne soit condamnée, que votre licenciement soit jugé irrecevable, enfin du coup que le patron ait commis une erreur. Maintenant, vous n'aurez plus qu'un an pour les saisir. Un an, c'est très très court. Et il y a déjà une étude qui a été faite en 2015 ou en 2016, je sais plus, et ça a diminué pratiquement de moitié la saisie des prud'hommes, en fait, parce que le délai est tellement court maintenant que du coup, ça a déjà diminué de la moitié. Alors une petite indication quand même, parce que vous dites peut-être un an c'est beaucoup, entre 2008 et 2013 vous aviez 5 ans pour saisir les prud'hommes, et avant 2008 vous aviez 30 ans, c'est-à-dire qu'on laissait vraiment le temps du coup aux salariés de se retourner là pour y aller, et que le patron du coup bah il a quand même chaud aux fesses pendant 30 ans, parce que du coup il se disait bah pendant ces 30 ans là je peux être encore condamné pour ça. Maintenant c'est un an tout est pour tout, et surtout le gros catro, là vous dites bah il y a quand même des sommes à payer, c'est sympa pour lui. Eh ben non, parce qu'en fait les patrons bah du coup maintenant ils savent comment faire, c'est-à-dire qu'ils vont provisionner sur leur compte annuel, ils vont mettre de l'argent de côté, ils vont provisionner la somme correspondant au licenciement, ils vont dire bah voilà, bah là ce salarié il me fait bien chier quand même, en plus il est syndiqué, il arrête pas de mettre de bâton dans les roues, lui il est là bah voilà, il est là depuis 2 ans, bah du coup ce qu'on va faire, bah du coup je vais le licencier, alors pour une raison X ou Y,
on trouve des fautes, hein.
Voilà, on en trouve toujours des fautes, et bah du coup il va se mettre voilà, bah tiens 2 ans d'ancien bing, 3 mois de salaire. Bon, 3 mois de salaire, je vais le provisionner dans l'année. Comme ça, l'année prochaine, je le vire. Et puis, comme ça, pour un peu pour tout le monde. Donc, gros cadeau au patron par rapport à ces indemnités licenciement. Après, on va essayer de nous faire croire, du coup, que c'est pour permettre au patron d'embaucher. Voilà, qu'on diminue tous ces coûts-là. Une des deuxièmes mesures, voilà, qui va faire beaucoup de mal au syndicat, c'est par rapport aux instances représentatives du personnel. Alors là, je vais vous sortir une petite phrase qui date de 1981. Alors qui est du PR de Gattaz. Alors voilà, il faut savoir du coup, il n'y a pas de reproduction sociale du coup du tout là-dedans. Parce que le PR de Gattaz en 81, devinez quoi, ce qu'il occupait comme poste, eh ben il était patron des patrons comme son fils aujourd'hui. Et donc ce fameux PR Gattaz avait sorti supprimons les syndicats et tout ira mieux. Et ben petit à petit on y vient, et là du coup il y a quand même un gros coup qui est porté aux instances représentatives du personnel. Il faut savoir qu'avant il y avait quand même plusieurs mandats, on pouvait déléguer du personnel, donc c'est le mandat qui est un peu le plus proche des salariés, c'est le mandat un petit peu de local, on va dire entre guillemets. On pouvait avoir un mandat CE, donc pour le comité d'entreprise, qui est assez spécifique, puisque là on parle des stratégies économiques et sociales de l'entreprise, et aussi tout ce qui est œuvre sociale. Enfin, non, j'ai plus œuvre sociale maintenant. En plus, un autre nom. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est plus ça. Donc, tout ce qui est chèque vacances, ticket cinéma, sortie, fin, etc., etc., etc. On pouvait être élu au CHSCT. Donc, voilà, pour les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, les conditions de travail. Le CHSCT qui était vraiment le dernier un petit peu, pilier, voilà, pour les élus, pour les salariés, parce qu'il permettait du coup notamment de bien faire chier les patrons sur pas mal de choses, et notamment sur des enquêtes, sur des expertises payées par les patrons, et que du coup là petit à petit disparaissent. Vous aviez aussi du coup le mandat délégué syndical, qui là du coup regroupe un territoire donné, une zone géographique où vous pouvez intervenir, du coup vous balader de boîte en boîte de votre entreprise, voilà, pour aller un peu discuter avec les salariés, faire du lien et développer un petit peu les sections syndicales là-bas. Et ben donc maintenant il va y avoir une réduction drastique du nombre et de la variété des représentants du personnel, vont disparaître grosso modo hein, les délégués du personnel, donc le mandat un peu local, et le CHSCT, puisqu'il va être fusionné avec d'autres instances. La volonté, voilà, du patronat et du gouvernement, bah, est très claire, hein, c'est d'éviter de faire chier le patronat avec toutes ces instances. Et il va y avoir donc une instance unique, ça c'est vraiment une volonté du MEDEF, hein, faut pas se le voiler, qui sera donc le Comité Social et Économique, le CSE. Avant, depuis la loi Rebsamen qui date de 2015 ou 2016, je ne sais plus, c'était seulement possible pour les entreprises de moins de 300 salariés, et encore fallait qu'il y ait un accord collectif signé avec le patronat ou syndicat patronat. Et donc là il y avait déjà les instances qui étaient fusionnées, mais pour les plus de 300 salariés c'était pas possible. Maintenant ça va être obligatoire en fait pour toutes les entreprises, cette fusion de toutes les instances du personnel. Ce qui va se passer donc, c'est que du coup il y aura plus qu'un budget grosso modo pour toutes ces instances, donc le CE notamment aura son budget, mais le CHSCT qui était une personne morale à part entière du CE, donc pouvait attenter au tribunal notamment administratif des actions contre le patron, voilà, pourra plus trop le faire, parce qu'en fait, il y aura plus de budget alloué à ça, ce sera le même budget que le CE. Donc, pensez bien que ça coûte cher, hein, des recours au tribunal, ça gagne pas tout le temps en plus. Donc là, du coup, c'est pour aussi squeezer tout ça, les expertises. Il y aura quand même possibilité de créer une commission qui s'appellera Santé, Sécurité, Conditions de Travail. Donc là, on se demande pourquoi on supprime les CHSCT. Du coup, pour les entreprises de plus de 300 salariés, par accord d'entreprise, mais les moyens seront réduits, parce que, comme j'expliquais, le budget va pas être le même. Donc, il faudra encore qu'il y ait un accord d'entreprise. Ça veut dire qu'il faudra que dans votre entreprise, il y a des syndicats qui souhaitent, du coup, ou au moins des élus qui souhaitent la création de cette commission-là. Si on tombe, je sais pas, sur les syndicats un peu d'accompagnement et qu'ils ne souhaitent pas, bah, du coup, il y aura pas de CHSCT dans votre entreprise. Et dernier exemple, s'il y a moins de 2000 salariés, dans votre entreprise, il y aura aucune augmentation du coût du budget prévu. Et s'il y a une expertise qui est votée, il y aura, avant, la totalité était payée par l'employeur, parce que c'était de sa faute quand même si on en venait à une expertise. Et maintenant, 20% de la somme, devra être payée par les élus, donc par les instances représentatives, donc ça fait un budget de fou. Moi, là où je bosse, des expertises, il y en a un peu de partout en ce moment, donc du coup, c'est les employeurs qui payent, mais on s'imagine bien que si jamais, la loi est passée, mais si on n'arrive pas à l'arrêter, et à la faire supprimer, du coup il y aura de moins en moins d'expertise et du coup les salariés vont de plus en plus souffrir au travail. On en vient maintenant aux procédures licenciement, et là du coup c'est quelque chose qui avait été caché au syndicat, donc là ça me fait bien marrer quand on parle de concertation sociale, etc. C'est de l'apparition de la rupture conventionnelle collective. Alors, rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? Avant, elle était individuelle, c'est-à-dire que si vous aviez... en gros, s'il y avait un conflit dans votre travail, en gros, si votre patron avait un problème avec vous, avait des choses à vous reprocher, et si vous aviez des choses à reprocher avec votre patron, plutôt que des fois d'être licencié, d'aller au prud'homme, donc votre patron ne souhaitait peut-être pas ça parce qu'il sait qu'il va peut-être payer une somme, il y avait un accord qui pouvait être trouvé entre les deux, et vous signez une rupture conventionnelle avec une somme définie, une indemnité, et vous repartiez avec un peu de sous, et voilà, votre patron n'allait pas au prud'homme, voilà, c'était un accord entre les deux qui permettait des fois, du coup, aux salariés aussi d'avoir une somme tout de suite et de pouvoir repartir sur autre chose après derrière. Et ben non, voilà, là, on crée la rupture conventionnelle collective, ou comment contourner les PSE. Les PSE, c'est les plans de sauvegarde de l'emploi. Donc voilà, les patrons, quand ils licenciaient beaucoup de monde à la fois, ils étaient obligés de passer par ce PSE qui leur obligeait à payer pas mal d'indemnités aux salariés. Et maintenant, Donc les patrons pourront licencier collectivement en proposant une indemnité qui sera nécessairement plus basse que les PSE. Donc en gros, voilà, s'il a 10 ou 15 personnes à virer, bah, il propose un truc commun pour les 15. Et voilà. Du coup, s'il refuse, après, il peut essayer de changer leur contrat de travail, etc. Enfin voilà, ça peut aller un peu loin. Par rapport au licenciement aussi, pour les multinationales, ça c'est assez important. À la prise en considération de la santé de l'entreprise, elle va se faire au niveau national, alors qu'avant elle se faisait au niveau international. Ça veut dire que si au niveau national, la boîte, on pense à une grosse boîte, je sais pas n'importe laquelle, n'importe quoi,
au hasard,
Renault. Je sais pas, ouais, voilà, Renault. Si dans un pays, voilà, elle faisait, bon, en France par exemple, si elle faisait une chute au niveau de son chiffre d'affaires entre guillemets, mais que si au niveau international tout allait bien, bah du coup elle avait pas le droit de licencier. Enfin du coup on prenait globalement au niveau international. Maintenant ça va être pris au niveau national, donc on imagine comment truquer ses comptes pour licencier en faisant croire que du coup là ça a vraiment pas, alors qu'au niveau international ça se gave de dividendes. Donc voilà. Et la dernière chose qui pourrait permettre à des patrons de licencier, c'est si un employé refuse. Là, faudra un accord entreprise, mais on imagine bien que maintenant, comme il y a moins en moins de, notamment pour les petites et moyennes entreprises, comme il y a de moins en moins d'élus ou des élus sans étiquette, sans mandat syndical, voilà, si le salarié refuse un changement sur son contrat de travail, donc on peut penser à la durée du temps de travail, on peut penser au congé, aux modifications de congé, aux diminutions de congé, à venir travailler sur les jours, par exemple, fériés ou chômés. Si le salarié refuse ça, que ce soit inscrit sur son contrat de travail, eh ben, il suffira, qu'il prenne la porte, parce que du coup, le patron pourra le virer comme ça. Donc voilà par rapport aux procédures de licenciement. On a aussi énormément de mesures. Ouais,
tu veux pas qu'on fasse une petite musique là, que ça te... Non, ou t'es bien parti?
Non, ça va, moi je...
Ouais, non, ça va,
j'y vais tranquille, ouais.
Non, c'était simplement pour te laisser reprendre un coup de souffle.
Je suis parti, moi.
Et tu mectais un petit peu.
Non, mais je vais boire un petit coup d'eau comme ça.
Excuse-moi de t'avoir coupé le... Mais quand même.
Voilà. Autre petit point, c'est bien, il prend soin de moi, il est gentil. Autre point, c'est par rapport à la
conditions de travail,
aux négociations, à la baisse de la rémunération et des conditions de travail. Donc c'est là où il y a une véritable hiérarchie des normes, parce qu'avant, du coup, on vous rappelle, hein, il y avait le code du travail et tout ce qui était au-dessus, accord collectif, de branche, accord d'entreprise, etc., accord d'établissement, bah tout ça ne pouvait être que plus favorable aux salariés. Ça veut dire qu'on améliorait les conditions. On peut penser aux jours de congé, on peut penser à un 13e mois, on peut penser aux congés d'ancienneté, etc., etc. Et ben là, du coup, non, les accords d'entreprise, maintenant, c'était déjà un peu le cas avec la loi de travail, mais là, ça va vraiment généraliser. On pourra, par exemple, avoir une baisse ou une suppression possible des primes. Voilà, l'exemple du 13e mois. Même si celle-ci est inscrite dans la convention collective dans laquelle vous êtes, ça peut être idem pour les primes d'ancienneté, pour les chèques vacances, pour les indemnités départ à la retraite. Tout va être négocié, en fait, branche par branche, entre guillemets, ou entreprise par entreprise. Il va pouvoir aussi y avoir, là, par rapport aux conditions de travail, une généralisation possible du travail de nuit, entre guillemets, par nécessité économique. Donc là aussi, par convention collective, même si aucune difficulté financière pour l'entreprise. Et ce malgré le danger pour la santé. Donc il suffira que le patron prenne pour une excuse une baisse de, je sais pas, de chiffre d'affaires par exemple, qu'il faut travailler un peu plus, ou qu'il y ait une équipe qui travaille la nuit, bah du coup on mettra ça en place tranquillement. Et il y aura aussi, alors ça c'est une possibilité qui est à l'étude, c'est pas dans la travail mais on vous la donne quand même, c'est une possibilité de réduire le SMIC ou de le moduler. Alors c'est à l'étude parce que dans d'autres pays ça se fait, et c'est sûrement une des prochaines étapes. Alors c'est vrai que du coup on est déjà trop payé avec un SMIC, hein, voilà. Et donc là ils vont peut-être essayer de diminuer selon la branche ou l'accord collectif dans laquelle vous dépendez. Ça veut dire qu'on va pouvoir être payé moins que le SMIC, comme ça se fait, il me semble, en Allemagne et en Angleterre. Donc voilà, pour baisser encore les rémunérations des travailleurs. Et un des gros chantiers de cette loi, bah, elle concerne aussi les CDD, donc les contrats à durée déterminée. Vous verrez qu'aussi ils sont attaqués au CDI, mais voilà, les CDD, en fait avant, maintenant encore, pour le moment, il y a une règle unique, une règle nationale pour les contrats courts. Ça veut dire qu'ils peuvent être de 18 mois maximum sur le même poste, et ils sont renouvelables une fois seulement sur le même poste. Ça veut dire que si votre patron fait une erreur et vous le renouvelle une deuxième fois, si vous attaquez, vous avez droit à un CDI, en grosso modo. Et donc maintenant, ce qu'a décidé Macron et le patronat, c'est que chaque branche pourra négocier la durée, leur renouvellement ou le nombre total par salarié. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, en fait, comme on disait qu'il y aura peut-être un code du travail par entreprise, et là c'est ce qui se prépare vraiment. Le patronat et le gouvernement vont aussi réduire le nombre de branches, il y en a énormément. Ils veulent arriver à peu près en 2018 à 200 branches, voilà, au niveau du travail. Et donc il y aura possibilité d'avoir 200 CDD différents. Voilà, selon la branche où vous êtes, il peut y avoir des CDD, pourra y avoir des CDD différents. Donc à chacun un peu son code du travail, à chacun du coup sa durée de travail, sa rémunération, etc., etc. Et il va y avoir une nouvelle, un nouveau dispositif aussi qui va être mis en place pour une activation possible pour les branches d'un nouveau dispositif, donc, qu'on appelle contrat de chantier ou CDI de chantier. Ça veut dire que vous allez signer un contrat de travail avec un projet à accomplir, une mission, et ben, quand cette mission sera finie, ben, en fait, votre contrat de travail sera fini. Donc, vous n'aurez plus de travail. Donc, c'est assez, enfin, c'est rigolo, entre guillemets, d'appeler ça un CDI parce que c'est un CDD déguisé, en fait. Donc, un peu plus long, peut-être que les 18 mois si vous êtes à signer un contrat de 3 ans, voilà. Mais, grosso modo, c'est un CDD déguisé. Et vous imaginez bien les problèmes que ça va avoir pour vous, notamment pour les personnes qui voudraient, je sais pas pourquoi pas accéder à un prêt ou accéder à un logement. Donc pour les régies, on va vous rigoler au nez en disant, attendez, voilà, vous avez un contrat de 2 ans, nous ça nous suffit pas, on n'a pas la garantie que dans 2 ans vous ayez encore un travail, donc vous puissiez payer votre loyer. Donc il est hors de question de vous accorder ça et ça et ça. Et surtout le gros cadeau là au patron, c'est quand votre CD se finissait, vous aviez une prime de précarité, voilà, parce que vous savez que vous retourniez au chômage si vous n'avez pas d'emploi derrière. Et ben là, du coup, avec ces CDI de chantier, plus de primes de précarité à la fin du contrat pour les patrons. Donc encore un énorme cadeau. Et la dernière chose, le dernier point qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était par rapport au référendum d'initiative patronale. Et en gros, la négociation sans les syndicats. Alors la loi travail avait déjà mis la possibilité de faire un référendum d'initiative au niveau de l'entreprise, notamment pour des syndicats minoritaires. Donc voilà, de faire voter une loi en fait un peu coupe-gorge en vous disant voilà, si vous ne votez pas pour ça, bah on va licencier, grosso modo. Donc c'était pour contourner les syndicats majoritaires, mais là ça va donc encore plus loin puisque c'est le patron qui pourra proposer ce référendum, notamment pourquoi pas sur la hausse du temps de travail, sur la baisse des salaires, sur la baisse des congés, tout ça pour unique raison, pour le maintien de l'emploi bien évidemment, autrement bye bye, je ferme l'usine. Voilà, il y a la, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais la baisse du droit de refus pour un ou une salariée, bah, d'une modification de son contrat de travail au nom de la discipline collective. C'est-à-dire que si on refuse ça, bah, du coup, on est simplement licencié. Et enfin, pour les PME de moins de 50 salariés, eh ben, il y a la possibilité pour le patron de négocier avec un élu sans mandatement syndical, alors qu'avant, c'était obligatoire. C'est-à-dire que pour négocier un changement du coup dans l'entreprise hein, sur les conditions de travail. Si on avait un élu, voilà, même s'il n'avait pas une étiquette syndicale, il pouvait se faire aider, voilà, par un mandaté syndical qui venait sur l'entreprise pour négocier ça avec lui. Bah maintenant c'est fini tout ça. Le patron pourra directement négocier avec un élu. Alors on imagine que ça peut être si c'est un élu qu'il a lui-même mis en place entre guillemets, ce que ça peut donner comme accord collectif. Donc voilà, donc pour résumer, la loi travail, c'est un outil de sécurisation pour les chefs d'entreprise. Ce sont des droits des salariés réduits, une extension des contrats précaires, une baisse des contre-pouvoirs dans l'entreprise, des accords collectifs sans voire contre les syndicats et un code du travail donc vu pour le gouvernement et le patronat comme responsable de la hausse du chômage, alors qu'on sait que c'est complètement autre, voilà. Les sous, il y en a, on en a parlé au début, vous écouterez ça quand on mettra l'émission en ligne si vous n'avez pas écouté depuis le début, mais les sous, il y en a un peu de partout. Voilà, et puis ça fait quand même déjà pas mal de raisons pour se mobiliser le 12 et après, voilà, pour se bouger, pour aller bouger vos collègues, vos voisins, vos amis, votre famille, pour aller dans la rue mardi matin sur Lyon à 11h30, donc le rendez-vous c'est Manufacturier Tabac, mais aussi les autres jours, parce qu'il y aura d'autres dates qui vont être posées, ça on le sait déjà. Et puis si tout ça vous suffit pas, bah vous savez aussi qu'il y a la fin progressive des contrats aidés qui est programmée, hein, ça c'était annoncé, et on sait l'impact que ça va avoir notamment sur les écoles, dans le milieu de handicap. Un petit exemple juste pour donner, c'est à Grenoble, c'est les Restos du Corps, du cœur, pardon, qui à partir de depuis cette semaine vont plus pouvoir donner des repas chauds, voilà, parce qu'ils n'ont plus leur contrat aidé pour les aider parce qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Donc voilà l'impact que ça a directement sur les gens, et vous pensez bien, c'est toujours les mêmes qui sont touchés, c'est les populations les plus précaires, ça va être les femmes sur les contrats précaires aussi, les temps partiels, etc., etc. C'est toujours les mêmes qui prennent dans la gueule. Une autre attaque, et ça on fera un gros point, je pense aussi sur une autre émission, ça va être sur le salaire brut. Et donc sur l'assurance accident, maladie, le chômage et la retraite. Et il y aura aussi toutes les attaques sur l'école et sur les différents services publics. On sait qu'il y a certains trucs qui vont être privatisés. On connaît pas encore quel secteur, mais on devine à moitié ce que ça va être. Et donc tous les impacts que ça va avoir sur la vie quotidienne des personnes ordinaires, on va dire, pas ceux qui sont tout là-haut bien planqués avec leur thune.
Très bien.
Donc voilà pour ce gros point.
Bah oui.
Oui, voilà. Ouais, bah oui, gros point, Julien.
Oui, aïe, aïe.
Et voilà, on va faire une pause musicale. Oui, voilà, on va faire 35 minutes de pause musicale et puis ensuite on passera du coup à une page de lutte sociale.
On va écouter le groupe Vlad.
Ouais, voilà. Donc c'est une petite reprise de NTM. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Alors c'est pas forcément pour le 12, hein, c'est pas un appel à foutre le feu le 12, mais au moins symboliquement à être dans la rue et à se faire entendre très 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 fort contre cette loi travail XXL.
Et c'est parti.
Les années passent, la santé est toujours à sa place en plus. Depuis tu me donnes encore un espace vital, il est nécessaire. Le monde rural en est l'exemple. Des arrois, des charrois, vous subirez la même porte de l'agonie.